Maturité professionnelle 2023, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Dialogue 1, vous entendrez l'enregistrement deux fois. Après la première écoute, vous aurez 1 minute 30 pour commencer de répondre aux questions. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions de l'exercice A1. Première écoute. Professeur à l'Université de Lille, Laurent Salard apporte son éclairage sur TikTok. Bonjour Laurent Salard. Comment expliquez-vous le récent succès de TikTok?
Avec la pandémie de 2020, l'application a été découverte par les adultes. Pendant les confinements, un tiers des utilisateurs appartenait à la tranche d'âge des 25-35 ans.
En quoi est-ce que TikTok diffère de Facebook et d'Instagram?
Elle a introduit le son, le geste, le mouvement, avec des chorégraphies et des sketchs, et elle permet donc de composer facilement de courtes vidéos de 15 à 60 secondes.
Comment les adultes utilisent-ils cette application?
TikTok est devenu un lieu du militantisme. D'une part, des femmes dénoncent les problèmes de violence dont elles sont victimes ou les féminicides. D'autre part, TikTok permet à la police de revaloriser son image.
Est-ce que les politiques utilisent TikTok pour toucher les jeunes?
C'est une évidence. Les contenus répétitifs permettent de défendre des droits et des causes et de faire de la politique.
De quoi les jeunes parlent-ils principalement sur TikTok?
L'application répond à toutes sortes de questionnements concernant la sexualité, la formation, la société ou le racisme, par exemple.
TikTok est à vos yeux un lieu où les adolescents créent leur identité. Pouvez-vous dire pourquoi?
TikTok permet à l'adolescent de créer une image idéalisée de soi. Grâce à TikTok, les adolescents se mettent en scène dans des chorégraphies ou des sketchs humoristiques. Cela a pour conséquence la création d'une image esthétique de ce que l'on est.
Que pensez-vous de la surexposition des corps sur TikTok?
Explorer son corps et sa beauté est normal à l'adolescence. On essaye de se construire par rapport au regard des autres et d'être apprécié. Mais s'exposer sur les réseaux sociaux est aussi dangereux. Les adolescents ne connaissent pas les personnes qui les regardent.
Comment se défendre alors contre ces dangers?
TikTok a prévu des instruments de protection, comme le mode connexion famille, qui permet aux parents d'associer leur compte à celui de leur enfant et d'activer ainsi une série d'options de contrôle.
Existe-t-il d'autres systèmes de protection contre la prédation sexuelle?
Oui, il y a toutes les formes de protection mises en place par les jeunes eux-mêmes. Elles consistent à veiller les uns sur les autres à l'aide des signalements. Cela permet de surveiller les éventuels prédateurs sexuels ou les personnes malveillantes.
Finalement, Laurent Salard, que nous dit le succès de TikTok sur notre société numérisée?
Il nous montre que notre quotidien est colonisé par le numérique. Chacun diffuse sa vie sur les réseaux sociaux. TikTok illustre à merveille ce phénomène de prise de parole individuelle et cette volonté d'entrer dans le cercle de la parole publique.
Laurent Salard, merci de cette interview. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Deuxième écoute. Professeur à l'Université de Lille, Laurence Allard apporte son éclairage sur TikTok. Bonjour Laurence Allard. Comment expliquez-vous le récent succès de TikTok?
Avec la pandémie de 2020, l'application a été découverte par les adultes. Pendant les confinements, un tiers des utilisateurs appartenaient à la tranche d'âge des 25-35 ans.
En quoi est-ce que TikTok diffère de Facebook et d'Instagram?
Elle a introduit le son, le geste, le mouvement, avec des chorégraphies et des sketchs, et elle permet donc de composer facilement de courtes vidéos de 15 à 60 secondes.
Comment les adultes utilisent-ils cette application?
TikTok est devenu un lieu du militantisme. D'une part, des femmes dénoncent les problèmes de violence dont elles sont victimes ou les féminicides. D'autre part, TikTok permet à la police de revaloriser son image.
Est-ce que les politiques utilisent TikTok pour toucher les jeunes?
C'est une évidence. Les contenus répétitifs permettent de défendre des droits et des causes et de faire de la politique.
De quoi les jeunes parlent-ils principalement sur TikTok?
L'application répond à toutes sortes de questionnements concernant la sexualité, la formation, la société ou le racisme, par exemple.
TikTok est à vos yeux un lieu où les adolescents créent leur identité. Pouvez-vous dire pourquoi?
TikTok permet à l'adolescent de créer une image idéalisée de soi. Grâce à TikTok, les adolescents se mettent en scène dans des chorégraphies ou des sketchs humoristiques. Cela a pour conséquence la création d'une image esthétique de ce que l'on est.
Que pensez-vous de la surexposition des corps sur TikTok?
Explorer son corps et sa beauté est normal à l'adolescence. On essaye de se construire par rapport au regard des autres et d'être apprécié. Mais s'exposer sur les réseaux sociaux est aussi dangereux. Les adolescents ne connaissent pas les personnes qui les regardent.
Comment se défendre alors contre ces dangers?
TikTok a prévu des instruments de protection, comme le mode connexion famille, qui permet aux parents d'associer leur compte à celui de leur enfant et d'activer ainsi une série d'options de contrôle.
Existe-t-il d'autres systèmes de protection contre la prédation sexuelle?
Oui, il y a toutes les formes de protection mises en place par les jeunes eux-mêmes. Elles consistent à veiller les uns sur les autres à l'aide des signalements. Cela permet de surveiller les éventuels prédateurs sexuels ou les personnes malveillantes.
Finalement, Laurence Allard, que nous dit le succès de TikTok sur notre société numérisée?
Il nous montre que notre quotidien est colonisé par le numérique. Chacun diffuse sa vie sur les réseaux sociaux. TikTok illustre à merveille ce phénomène de prise de parole individuelle et cette volonté d'entrer dans le cercle de la parole publique.
Laurence Allard, merci de cette interview. Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Dialogue 2. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. Après la première écoute, vous aurez 1 minute 30 pour commencer de répondre aux questions. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions de l'exercice A2. Première écoute. Interview avec Esther Staubli, arbitre international de foot. Bonjour Esther Staubli. Comment est née votre passion pour le ballon rond?
À l'école, je jouais déjà au foot. Ensuite, à 16 ans, j'ai eu envie d'entrer dans un club. À l'époque, c'était une démarche inhabituelle pour une fille. Mais j'ai trouvé une équipe de foot féminine à Thun.
Quel poste occupiez-vous?
J'ai été attaquante de 1995 à 2004. En 2000, quand j'ai commencé ma carrière d'arbitre, j'ai pu exercer les deux fonctions quelques années. Mais une fois la deuxième ligue atteinte, j'ai dû renoncer à mon activité de joueuse.
Comment avez-vous vécu cette expérience?
Je n'ai jamais subi de moquerie. Tous les spectateurs appréciaient le football féminin. Malgré tout, les stéréotypes de genre liés au foot féminin sont encore présents aujourd'hui. Le jeu serait moins spectaculaire, le foot un sport d'homme. Pour moi, comparer le foot masculin au foot féminin n'a aucun sens. Il s'agit de deux univers différents.
Pourquoi êtes-vous passée à l'arbitrage?
J'ai compris que mes talents de joueuse étaient limités parce que j'avais commencé le foot trop tard. Malgré ça, je voulais rester dans le foot, ma véritable passion. Et j'ai donc tenté la voie de l'arbitrage.
La fonction d'arbitre exige une excellente condition physique. Comment vous préparez-vous?
Je travaille avec un psychologue du sport et je m'entraîne avec des coachs pour la musculation. Je passe aussi en revue les équipes et les situations de jeu pour affronter toutes les configurations possibles.
Quelles sont les différences entre l'arbitrage d'une rencontre féminine et d'une rencontre masculine?
Les hommes sont plus directs. Ils s'en prennent immédiatement à l'arbitre. Les femmes, de leur côté, restent fâchées plus longtemps. Mais bon, les femmes et les hommes ne parlent parfois pas le même langage.
Vous avez été la deuxième femme à arbitrer un match de Super League. Avez-vous ressenti une certaine pression?
C'était un match comme les autres. J'ai ressenti plus de pression à d'autres occasions. Par exemple, lors de la finale de l'Euro féminin 2017 aux Pays-Bas, devant 30 000 spectateurs.
Avez-vous déjà dû subir des propos machistes ou sexistes?
Non, mais si une arbitre fait une erreur, alors on lui reproche d'être une femme.
Une femme arbitra-t-elle un jour une finale de Coupe du Monde masculine?
On y arrivera peut-être dans quelques années.
Voyez-vous l'arbitrage en milieu masculin comme un acte militant?
Je ne cherche pas à être acceptée et respectée comme femme, mais comme arbitre. Quel que soit le niveau, qu'il s'agisse de foot féminin ou masculin, je me donne toujours à 100%.
Esther Staubli, merci de cette interview. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Deuxième écoute. Interview avec Esther Staubli, arbitre international de foot. Bonjour Esther Staubli. Comment est née votre passion pour le ballon rond?
À l'école, je jouais déjà au foot. Ensuite, à 16 ans, j'ai eu envie d'entrer dans un club. À l'époque, c'était une démarche inhabituelle pour une fille. Mais j'ai trouvé une équipe de foot féminine à Thun.
Quel poste occupiez-vous?
J'ai été attaquante de 1995 à 2004. En 2000, quand j'ai commencé ma carrière d'arbitre, J'ai pu exercer les deux fonctions quelques années, mais une fois la deuxième ligue atteinte, j'ai dû renoncer à mon activité de joueuse.
Comment avez-vous vécu cette expérience?
Je n'ai jamais subi de moquerie. Tous les spectateurs appréciaient le football féminin. Malgré tout, les stéréotypes de genre liés au foot féminin sont encore présents aujourd'hui. Le jeu serait moins spectaculaire, le foot un sport d'homme. Pour moi, comparer le foot masculin au foot féminin n'a aucun sens. Il s'agit de deux univers différents.
Pourquoi êtes-vous passée à l'arbitrage?
J'ai compris que mes talents de joueuse étaient limités parce que j'avais commencé le foot trop tard. Malgré ça, je voulais rester dans le foot, ma véritable passion. Et j'ai donc tenté la voie de l'arbitrage.
La fonction d'arbitre exige une excellente condition physique. Comment vous préparez-vous?
Je travaille avec un psychologue du sport et je m'entraîne avec des coachs pour la musculation. Je passe aussi en revue les équipes et les situations de jeu pour affronter toutes les configurations possibles.
Quelles sont les différences entre l'arbitrage d'une rencontre féminine et d'une rencontre masculine?
Les hommes sont plus directs. Ils s'en prennent immédiatement à l'arbitre. Les femmes, de leur côté, restent fâchées plus longtemps. Mais bon, les femmes et les hommes ne parlent parfois pas le même langage.
Vous avez été la deuxième femme à arbitrer un match de Super League. Avez-vous ressenti une certaine pression?
C'était un match comme les autres. J'ai ressenti plus de pression à d'autres occasions. Par exemple, lors de la finale de l'Euro féminin 2017 aux Pays-Bas, devant 30 000 spectateurs.
Avez-vous déjà dû subir des propos machistes ou sexistes?
Non, mais si une arbitre fait une erreur, alors on lui reproche d'être une femme.
Une femme arbitra-t-elle un jour une finale de Coupe du Monde masculine?
On y arrivera peut-être dans quelques années.
Voyez-vous l'arbitrage en milieu masculin comme un acte militant?
Je ne cherche pas à être acceptée et respectée comme femme, mais comme arbitre. Quel que soit le niveau, qu'il s'agisse de foot féminin ou masculin, je me donne toujours à 100%.
Esther Staubli, merci de cette interview. Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Fin de l'examen de compréhension auditive.